France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le nouveau coup de pression du gouvernement pour la vaccination des soignants. Cette fois, c'est le monsieur vaccin Alain Fischer qui s'est lancé dans un marathon virtuel pour convaincre les deux tiers des personnels soignants encore sceptiques, voire carrément opposés à la vaccination contre le Covid-19. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Les services de réanimation sont pleins. Les hôpitaux d'Île-de-France appelés à déprogrammer 40% de leurs opérations non urgentes. Un débat climat peut en cacher un autre à l'Assemblée. Jour de colère au Liban où un habitant sur deux vit désormais sous le seuil de pauvreté. Et puis végétalisation, suppression des places de stationnement, terrasses en palettes de bois. Nous verrons à quoi ressembleront nos villes dans le futur.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50.
Et oui, Léa. L'astronaute préféré des Français. Il va repartir dans quelques semaines en orbite, passer 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Mais avant, Thomas Pesquet sera avec nous sur France Inter à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le président du Sénat, sénateur Les Républicains des Yvelines. J'ai nommé Gérard Larcher. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le porte-parole du gouvernement a évoqué hier l'irresponsabilité des soignants qui refusent de se faire vacciner, n'excluant pas de rendre la vaccination obligatoire à moyen terme. Aujourd'hui, seul un tiers des soignants est vacciné. La méfiance est particulièrement forte du côté des infirmières et des aides-soignantes et vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. Le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, a donc pris son bâton de pèlerin virtuel pour tenter de convaincre les soignants. Daniel Messager a suivi ce visio marathon.
Convaincre, quitte à répéter encore et encore, c'est sa mission. Il n'est pas imaginable pour Alain Fischer que les soignants rejettent la vaccination et le vaccin AstraZeneca. Alors il fait le tour par visioconférence de toutes les régions, comme ici en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un message particulier pour les jeunes.
Ce vaccin AstraZeneca est aussi efficace que le vaccin Pfizer. Nous tous, professionnels de santé, avons une responsabilité. Ce qui est bien, c'est que des gens du même âge montrent l'exemple. Si des jeunes collègues disent à leurs collègues jeunes aussi, regarde, j'ai été vacciné, ok, j'ai eu un peu de fièvre, bon, ça y est, je suis vacciné, c'est comme moi.
Et des modèles, il va en falloir, car la réticence est encore très présente. Amélie, 32 ans, est aide-soignante. Dans son équipe de 25, seuls 5 sont vaccinés. Elle dit sa crainte du vaccin à Cécilia Arbona.
Sur les mois à venir, les années à venir, on ne sait pas ce que ça donnera. Il n'y a pas assez de recul, c'est pas fiable. Bon, pour l'instant, c'est non. Si c'est vraiment obligatoire, ben, à un moment donné, on n'aura pas le choix. J'ai déjà entendu des collègues dire que si ça devenait obligatoire, elle changerait de métier. C'est catégorique, elle refuse vraiment le vaccin.
Une obligation pas encore mise à exécution. Alors avant d'en arriver là, Alain Fischer va continuer d'enchaîner les Zooms, Bretagne et Grand Est d'ici la fin de la semaine. Et un souhait, que les soignants se protègent avec le vaccin et protègent ainsi leurs malades.
Ces soignants qui refusent de se faire vacciner, article à lire sur franceinter.fr. Dans l'ensemble de la population, on compte ce matin près de 2 millions de personnes totalement vaccinés et 2 autres millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin. L'autre question ce matin est aussi de savoir qui peut vacciner. Le gouvernement donne finalement priorité aux pharmaciens qui pourront vacciner à partir de lundi prochain, aux grandes dames des médecins généralistes, dans un contexte de baisse du nombre de doses disponibles, 28 000 seulement pour la semaine prochaine. Et en Île-de-France, où les services de réanimation sont occupés à plus de 90%, ordre a été donné aux hôpitaux de déprogrammer 40% des opérations non urgentes, une situation que déplore le professeur Jean-Michel Constantin, chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et qui estime que c'est la conséquence directe du non-reconfinement de l'Île-de-France.
Ça signifie un prix à payer qui commence à être lourd. Parce que même si on essaie de pas déprogrammer en oncologie ou en chirurgie cardiaque, on déprogramme sur des chirurgies qui sont dites fonctionnelles mais qui deviennent vitales au bout d'un moment. Il y a des patients qui sont déprogrammés depuis le mois de mars dernier. Puis quand on déprogramme, mais en même temps qu'il y a un confinement qui se met en place, on sait qu'on va avoir un effet très rapide des mesures de freinage. Là, la tension est telle qu'on ne sait absolument pas à quel moment on pourra remettre en place les activités chirurgicales. Que le pari qui a été pris par le gouvernement et par le président est peut-être le bon. sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan psychologique, le confinement, c'est épouvantable. Mais que si on déborde nos services de réanimation, eh bien, on risque d'avoir des morts plus que ce qu'on a à l'heure actuelle, et ça, ce n'est pas envisageable.
Le propos recueilli par Cécilia Arbona, la situation en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur sera réexaminée demain lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. La crise du Covid a mis en lumière le retard des PME françaises sur le numérique. Une sur trois seulement dispose d'un site internet. Les inciter à se numériser, c'est l'un des axes du plan de relance. Et le message a été particulièrement bien reçu face au succès des dispositifs. Bercy va affecter 1 milliard d'euros supplémentaires. Un chèque de 500 euros a été lancé fin janvier et il est rétroactif. Delphine Simon s'est rendue dans une PME du Val-de-Marne. Reportage.
Dans cette micro-brasserie de Fontenay-sous-Bois, c'est le jour où Yann Geffriot, le gérant d'Outland, brasse la bière.
Nous, on prépare 2000 litres à peu près ce jour-là, quoi. Ça fait à peu près 6000 bouteilles.
Pour écouler ces bouteilles, au premier confinement, la PME a lancé son site internet de briques et de broc, reconnaît Elena Schmitt, qui gère les finances.
Évidemment, tout est enfermé. On s'est dit que c'était la seule solution pour nous de continuer à toucher un public en direct. On a mis en place ce site avec les moyens du bord. Quelque chose de très standard, un système de panier, de commandes, de showroom numérique.
Aujourd'hui encore, le site sert de plateforme de vente, mais pour une nouvelle activité, les canettes, plus faciles à livrer. Il faut aussi gérer les stocks, d'où la nécessité d'investir dans de nouveaux outils plus performants, mais difficile de les financer vu la conjoncture.
Aujourd'hui, on le maintient notamment parce qu'on peut commencer à envoyer des colis dans toute la France. C'est effectivement intéressant de se faire financer, parce que je crois que c'est jusqu'à 50% des dépenses.
Selon la Chambre de commerce et d'industrie, les demandes de subventions explosent. Effet d'aubaine ou véritable enjeu pour ces PME, s'interroge Guillaume Mortelier, chargé de les accompagner à la Banque publique d'investissement.
On est en train de rattraper une forme de retard que l'on avait dans l'intégration du numérique. Après le facteur rattrapage qu'on a actuellement, il faut absolument maintenir cette dynamique-là.
D'ici quelques semaines, Bercy rouvrira le guichet pour la numérisation des PME industrielles grâce à une enveloppe supplémentaire de 600 millions d'euros du plan de relance.
Delphine Simon, quant au plan d'investissement santé pour les 10 prochaines années, doté d'une enveloppe de 19 milliards d'euros, un nouveau volet. Aujourd'hui, nous verrons cela en détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h07, Agnès, l'agenda très vert du Parlement.
Alors que les députés ont commencé hier soir l'examen en commission des articles de la loi climat, ils entameront ce soir et en séance la lecture d'un autre texte censé concrétiser les travaux de la Convention citoyenne, l'organisation d'un référendum pour inscrire la prévention de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Emmanuel Macron s'est engagé sur un calendrier avec un référendum avant Noël, à condition, Yaël Gauze, que le Sénat ne mettent pas des bâtons dans les roues.
384 amendements au total pour un seul article. L'insertion au troisième alinéa de la phrase suivante. Elle, la France, garantit la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. La Convention citoyenne nous a mal notés, mais sur ce sujet-là, plaide un conseiller, notre copie est conforme à l'original, sans filtre, comme le président s'y était engagé le 14 décembre.
Je ne peux pas être plus clair.
Sous les mêmes termes que proposés par la Convention citoyenne, oui. Avec ce terme garantie.
Oui. Et dans la discussion qui s'ouvre ce soir jusqu'à jeudi, les résistances viendront surtout du flanc droit. Les Républicains engagent la bataille des mots en s'appuyant sur le Conseil d'État, plus que réservé sur l'usage du verbe garantir, qui induirait une obligation de résultat trop lourde à assumer pour les pouvoirs publics. Simple formalité à l'Assemblée, le texte atterrira ensuite au Sénat. Ping-pong garanti, prédit un conseiller. La charte de l'environnement introduite sous Chirac suffit, disent les Républicains. À quoi bon modifier l'article 1 pour le symbole et pour accélérer la transition, plaide l'Élysée. Quant au blocage de Gérard Larcher, il finira par céder, anticipe confiant un intime du président qui imagine l'organisation du référendum entre septembre et novembre prochain.
Et nous poserons justement la question au président du Sénat, Gérard Larcher, invité du grand entretien d'Inter tout à l'heure à 8h20. C'est l'une des grandes affaires criminelles du XXe siècle, le quadruple meurtre de la Sarthe en 1994, Dany le Prince, condamné à la perpétuité pour les meurtres de son frère, de sa belle-sœur et de deux de ses nièces. Son avocat vient de déposer une nouvelle requête auprès de la Cour de révision pour obtenir un second procès.
Il est 7h09, c'était hier la journée de la colère au Liban.
Et malgré le confinement, les Libanais se sont mobilisés pour dénoncer la détérioration de la situation économique et l'incurie des politiques. Il y a quelques jours, la livre libanaise a franchi la barre symbolique et historique des 10 000 livres pour un dollar. En moins de deux ans, elle a donc perdu 85% de sa valeur et le pays est sans gouvernement depuis l'été. Aurélien Colli est à Beyrouth pour France Inter.
Pas de mobilisation massive comme en octobre 2019 au début de la crise économique, mais des dizaines de routes coupées dans tout le pays, des barrages de pneus et de poubelles en feu tenus par des petits groupes de Libanais exaspérés. Tout est devenu hors de prix, tout le monde souffre, ils ont affamé les gens, explique Ali, la trentaine. Ils, ce sont les chefs des partis communautaires qui se renvoient la responsabilité de la crise et du blocage politique, qui divise et polarise aussi, alors que le pays s'enfonce et que les Libanais sont à bout. Ils aiment le confessionnalisme, ils en vivent, ils créent la discorde entre nous au lieu de sauver le pays. Il faut qu'on reste unis, insiste encore Ali, même ras-le-bol sur un autre barrage dans le centre-ville de Beyrouth. On n'en veut plus de cette classe politique corrompue qui nous fait mendier pour une brique de lait, déplore Yara. Elle fait allusion à une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une bagarre dans un supermarché pour du lait de bébé désormais difficile à trouver. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je ne peux plus payer la fac, je n'ai pas de couverture sociale, je n'ai pas d'État pour me protéger, s'exaspère encore Yara, qui promet de ne plus quitter la rue. Pas question non plus de quitter son pays, comme des dizaines de milliers de Libanais l'ont fait ces derniers mois. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
L'ex-président Lula pourra-t-il se présenter contre Bolsonaro à la présidentielle l'an prochain au Brésil? La question peut légitimement se poser puisqu'un juge de la Cour suprême a annulé hier toutes les condamnations pour corruption et a rendu à Lula ses droits politiques. Dans l'attente d'une nouvelle décision de justice, nous serons à Rio de Janeiro dans le prochain journal. Enfin, à quoi ressembleront nos grandes villes dans les prochaines décennies? Ce qui semble certain, c'est la place de plus en plus réduite accordée aux voitures. La semaine dernière, la mairie de Paris annonçait la suppression de près de 70 000 places de stationnement en surface. Une tendance accentuée par la crise sanitaire et que l'on retrouve dans les grandes métropoles françaises. Tour d'horizon avec Delphine Evenou.
Des palettes de bois dressées en tables et bancs, là où se garettent habituellement des voitures. Ces terrasses éphémères ont fleuri à Paris après le premier déconfinement. Lyon les testait déjà l'été depuis quelques années. Et à Bordeaux aussi, on veut limiter la carrosserie. Didier Jean-Jean, adjoint à la nature au sein de la nouvelle municipalité écologique.
Jusqu'alors, la doctrine c'était on ne touche pas à une place de parking. Donc nous, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a déjà mis en place, là, enfin, ce sera avant la fin du mois, on a mis par exemple ce qu'on appelle le permis de végétaliser. Et donc on va soumettre à concertation, sur une initiative des riverains, la possibilité de planter un arbre ou d'installer des bacs sur des places de parking.
Mais aussi des composteurs, des jeux, des places pour les vélos. Et la crise sanitaire a accéléré les projets, confirme Marion Ayou, ingénieur voirie et espace public au CEREMA, centre d'études sur l'aménagement du territoire.
Il est vrai qu'on s'est permis parfois de finalement tester un aménagement en se disant que de toute façon, d'ailleurs c'est du matériel de chantier parfois qui a été utilisé, donc on était bien dans une logique de voir de manière provisoire ce que cela pouvait donner. Pour autant, c'est une tendance que l'on a depuis quelques années, de finalement avoir un partage plus équilibré de la voirie urbaine.
Une tendance de fond et de nouveaux impératifs comme des trottoirs plus larges pour garantir la distanciation sociale et plus agréables pour pouvoir s'évader un peu dans un rayon limité en cas de reconfinement.
Delphine Evenou. Et parmi les idées de nos voisins européens, Nicolas, des toits d'abribus végétalisés aux Pays-Bas, avec un triple objectif, offrir aux abeilles de quoi butiner, rafraîchir l'atmosphère et améliorer la qualité de l'air.
On veut les mêmes. Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info, enquête sur Centaure, le nuage radioactif qui a touché Tahiti.